20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 22 septembre 1971. C'est la naissance d'un genre musical phénomène qui a fait danser la planète et que l'on met dans toutes les fêtes, le disco. Nous sommes le 22 décembre 1971. Ceux qui sortent du cinéma après avoir vu le film Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem, sont en proie à une drôle de sensation. Étrangement, ils chaloupent en marchant. Ils ont le pas léger, la joie au cœur. Ils n'ont pas envie de rentrer se coucher, non. Ils veulent passer la night sous une boule à facettes. Ils ne le savent pas encore, mais bientôt, ils porteront des petits hauts moulants en spandex à paillettes. Bref, ce 22 septembre 1971, ces cinéphiles viennent d'être transcendés par le disco. Le disco que l'on découvre dans la bande originale donc du film Shaft signé Isaac Hayes, qui trouve sa source dans la musique noire soul des années 60 incarnée par Diana Ross ou Marvin Gaye. Aux États-Unis, où il est né, le disco, c'est la musique des minorités, les gays, les noirs, les latinos. C'est la musique de la femme qui se libère. C'est la musique qui froisse la morale conservatrice et catholique. Très vite, la vague disco va se déverser sur la planète. Et en France, tout le monde s'y met. Dalida.
J'attendais.
Aussi Sheila. Un certain Patrick Juvet. On va te le dire, où sont les femmes. Il y avait également un Patrick Hernandez. Sans oublier Marc Serron. Mais dites-moi, les Village People, on en parle avec eux? Eh bien, c'est la danse, c'est la revendication gay. Mais oui, il y a l'ouvrier, l'indien, le beau marin. Eh, tu la sens monter l'ambiance, tu sens le rythme qui monte en toi. Allez, danse, lâche-toi. Ce soir, on va au Palace. Le Palace, c'est la boîte du tout Paris. C'est là qu'un jour, Grace Jones s'est montée sur une table. Elle était alors totalement inconnue, mais elle a été repérée par un producteur. Et sa carrière est lancée. La période disco, c'est aussi les maxi 45 tours. C'est la naissance des medleys et des remixes dans les discothèques. C'est là que les premiers DJ verront le jour en faisant danser les noctambules jusqu'au bout de la nuit. Mais en 1970, Steve Dahl, un animateur de radio américaine, lassé de devoir passer du disco sur son antenne au détriment du bon vieux rock, va démissionner et lui déclarer la guerre. Et deux ans plus tard, une saloperie de maladie appelée Sida aura raison de la fête, de la légèreté et des amours d'un soir. Le disco sera enterré en 1981. Mais en fait, jamais il ne nous a vraiment quittés. Il s'est glissé dans les accords d'Étienne Dao ou encore de Jimmy Somerville. Et puis dernièrement, Clara Luciani déclarait avoir écouté ABBA pendant son confinement et Juliette Armanet cartonne en ce moment avec son titre « Le dernier jour du disco ». Bonsoir à tous, bienvenue au Palace, bienvenue dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand jusqu'à 21h sur RTL.
Merci pour votre fidélité à Jour J sur RTL et en podcast Jour J qui vous emmène jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout, vous l'avez compris, du disco. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jean-Marie Potier.
Bonsoir Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes correspondant français du magazine Soir Mag et vous êtes auteur de différents ouvrages et notamment Un adolescent des années 70, Ma vie avec ABBA aux éditions Ola. Dites donc, il n'y aurait pas un petit peu de... un petit peu d'autobiographie dans cette histoire.
Il y en a beaucoup.
On sent que vous avez baigné en tout cas dans le disco. En préparant cette émission, vous avez choisi le 22 22 septembre 1971. C'est pas facile de trouver une date qui va marquer le début, la naissance du disco.
Oui, c'est vrai, parce que on situe les débuts du disco au début des années 70, un peu plus tard, 74, 75. Ouais. On le situe en Amérique, en Europe. Bon, mais moi j'ai choisi cette date parce que c'est vrai que c'est la sortie du film Shaft, que l'on appelait en France Les Nuits Rouges de Harlem.
Ouais.
Et la musique va être presque plus importante et plus célèbre que le film.
Oui, parce que le film n'a pas fait le carton non plus qu'on aurait pu imaginer. Non. En revanche, là, ce qu'on est en train d'entendre, c'est comme une vague qui va se déverser finalement sur la planète, quoi.
Tout à fait. On entend cette guitare que l'on appelait la guitare wah-wah parce qu'elle est connectée à une pédale wah-wah.
Ouais.
Et ça donne ce son-là particulier. Et vous dites une vague, c'est exactement ça.
Ouais.
Et Isaac Hayes va faire un tube mondial qui va annoncer le mouvement disco qui va ensuite déferler sur le monde entier.
C'est allé très rapidement. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Mais si on devait définir la musique disco. En début d'émission, je disais, voilà, c'était la musique d'abord des minorités.
Oui, tout à fait, absolument.
Ouais.
C'est la musique des minorités parce que elle va surtout devenir très populaire dans les clubs underground aux États-Unis. Les Noirs, les Latinos,
les
gays. Et même, ça va être une musique que les femmes vont s'approprier pour revendiquer un tas de choses. On le verra un petit peu plus tard dans certaines chansons, certains tubes, des chanteuses comme Donna Summer. Elle a aussi libéré beaucoup la parole féminine au travers de ses textes.
Donc c'est sensuel aussi le disco.
C'est très sensuel.
Je pense dans la manifestation justement de la femme, il y a quelque chose de très 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 ondulant. On l'entend
bien
là.
Bien sûr, c'est une musique quelque part féminine, on peut le dire, même si beaucoup de musiciens étaient des hommes. Mais les chanteuses ont une place très très importante, primordiale dans le disco. Et donc, c'est une musique qui prend sa source dans le rhythm and blues, la musique noire en général, le funk, la soul, même la Tamla Motown. Vous savez, ces groupes féminins, les Supremes, avec Diana Ross, les Ronettes, Be My Baby, et même dans le gospel, parce que beaucoup de chanteuses disco, quand elles étaient adolescentes, elles faisaient partie de chorales dans l'église la plus proche de chez eux.
Ouais, alors ce qui est intéressant quand vous parlez de gospel, c'est qu'on a l'impression aussi que le disco est devenu presque une musique de religion.
Oui.
C'est une chapelle en fait,
on peut
le disco.
Dire. On peut le dire, absolument. Les chapelles étant des discothèques, peut-être. Tout à fait. Et puis, il y a un caractère religieux, parfois. Il y a des influences aussi. Gospel, religieuse. Oui, tout à fait.
On est dans les années 70. C'est une décennie, je le disais aussi, qui s'achèvera sur l'arrivée du sida, la survenue, effectivement, d'événements qui auront, quelque part, eu raison du goût de la fête. Mais dans les années 70, c'est une période aussi de libération. Est-ce que le disco est une musique historique en ce sens qu'elle a porté des combats quelque part aussi ?
Oui, bien sûr. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, on l'a appelé souvent la parenthèse enchantée, la période du disco. Hein, 71-81, justement, après l'arrivée du sida, entre le choc pétrolier... Et l'arrivée du sida. Oui, c'est une musique. Justement, les minorités vont revendiquer un tas de choses. Déjà, ça va être une musique, comme je disais, dans les clubs underground. Donc, c'est un peu en privé comme ça. Ils s'éclatent. On danse, on se laisse aller. Et puis ensuite, dans les textes, dans les chansons, ils vont revendiquer un tas de choses. Le sexe, la liberté sexuelle. Parce qu'on est aussi 68 et pas loin derrière.
Mais c'est ça, en fait. Jean-Marie Potier, j'ai l'impression aussi que le disco, vous parlez d'une période enchantée, et moi je dirais aussi quelque part une période de revendication joyeuse.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'était pas là en train de manifester avec colère. Non, en fait, ça a des allures. Alors, on peut retrouver du disco d'ailleurs sur les Gay Pride aujourd'hui. Il y a de la revendication joyeuse. Il y a du love, il y a de la joie, il y a du embrasse-moi, c'est ça, hein, le disco.
Oui, c'est très festif.
Ouais.
Et c'est... Voilà, oui, c'est une sorte de combat, de révolution musicale en faisant la fête et en s'amusant.
On va se retrouver dans un instant. Alors, on l'a compris, hein, ce soir. Wouh ! Non, mais sérieux, quoi. Non, mais vous disiez, c'est joyeux. On n'a qu'une envie, c'est de faire la fête. Quoi.
Exactement.
Vous mettez ça dans un mariage, bah, tout le monde y va, quelle que soit la génération.
Et c'est un hymne, I Will Survive.
Ah bah,
ça a d'abord été l'hymne des gays.
Ouais.
Ensuite, l'hymne des femmes aussi pour résister, survivre à un tas d'oppressions. Et puis, l'hymne du foot.
Exactement. Et de la victoire, évidemment.
Et
de la Coupe du Monde. Comme quoi, le disco est partout, même dans les événements sportifs qui nous auront marqués. On se retrouve dans un instant, vous avez compris, on va passer une heure de joie et de danse sur l'antenne d'RTL. Jour J qui se poursuit en musique et en paillettes, car notre numéro de ce soir est consacré, vous l'avez compris, au disco. Tout le monde danse dans ce studio et en régie. Marc Bisset est aux manettes, on le remercie d'ailleurs parce que ce soir il va nous passer. C'est un peu notre DJ d'ailleurs, hein, Jean-Marie Potier, on y reviendra dans un instant car le disco aussi a vu naître certains métiers, notamment celui-ci. En tout cas, le disco c'est un phénomène qui, s'il se propage sur toute la planète, est né outre-Atlantique, aux États-Unis. Jean-Marie Potier, qui sont alors on l'a compris, hein, c'est ça vient effectivement des minorités, ça vient de ces catégories de la société qu'on n'écoute pas assez, qui s'empare de cette musique, qui s'inspire elle-même du gospel, du blues, enfin bon tout ça. Mais qui sont ceux qui vont incarner le disco en premier aux États-Unis ?
Les Noirs. Parce qu'il y a une telle oppression, ça va être une musique grâce à laquelle ils vont revendiquer plein de choses.
Ouais.
Alors justement, il y a aux États-Unis, le disco naît à plusieurs endroits. On va appeler ça les sons, le son de Détroit. Détroit, il y avait la Tamla Motown dans les années 60 et Détroit très connu pour ses industries automobiles. Il y avait Chrysler, il y avait Ford, Packard et donc le disco naît là dans des studios d'enregistrement. Il y a aussi à Philadelphie, on va l'appeler le son de Philadelphie avec le fameux Sigma Sound Studio, où des tas d'artistes disco vont enregistrer là-bas. Et l'un des premiers, on l'a vu, c'était Isaac Hayes avec la musique de Shaft, et puis Barry White.
Ah, Barry White.
Barry White.
Attends, Barry White, il est né dans les années disco ?
Oui, il est né avant.
Ah ouais,
il va
s'emparer du disco.
S'emparer du disco et faire une carrière mondiale grâce au disco et à la soul.
C'est marrant parce qu'en fait, on a vraiment le sentiment que quand on chantait du disco, il fallait avoir une voix plutôt au perché. C'est pas le propre de Barry White.
Du tout. Et justement, il plaît aussi parce qu'il y a cette voix très masculine, testostéronée.
Ouais, c'est ça, qui vient testostéroner le disco, quoi.
Voilà.
On l'entend là, Barry White. Alors, il y avait ces sons donc, qui venaient de Détroit, de Philadelphie, il y en avait d'autres ?
Oui, San Francisco aussi.
Ouais.
San Francisco, il y a des artistes. San Francisco, ça ne va pas démarrer tout de suite. Ce sera un petit peu plus tard avec Sylvester.
Ouais.
You Make Me Feel.
Ah, pas mal.
Voilà, c'est le son de San Francisco qui va déboucher sur un autre son quand le disco sera mort. On va l'appeler la High Energy.
Okay.
Il y aura les Weather Girls, It's Raining Men, tout ça. C'est San Francisco. Et donc, justement, il y a aussi ce tube écrit par Barry White, joué par ses musiciens, le Love Unlimited Orchestra, avec le fameux Love Theme. Mm-hmm. Alors ça, c'est une musique qui va faire le tour du monde.
On l'entend là.
Qui est reprise pour des jingles, des génériques, des émissions de télé. Mais encore aujourd'hui, c'est le truc qui est... C'est disco... On peut danser dessus, c'est pas hyper rythmé, mais on pense aux vacances aussi, au soleil, je sais pas, c'est un morceau très ensoleillé.
On y est là en fait, on est plutôt en fin d'année, mais on est effectivement au soleil grâce à vous et grâce à Barry White que l'on entend en fond dans ce jour J spécial disco. Alors, est-ce que c'est vraiment resté dans les boîtes de nuit ? Comment le disco est-il sorti finalement des milieux nyctalopes ?
Ah oui, alors justement, mais oui, le grand public va s'emparer du disco parce que on en entend tellement parler dans les clubs que ça, voilà, à un moment les portes s'ouvrent, les gens sortent, les radios vont commencer à diffuser du disco aux États-Unis et puis en parallèle il y aura aussi l'Europe. On en parlera peut-être après, mais l'Europe va aussi avoir ses génies, ses producteurs, ses musiciens. musiciens. Mais là-bas, dans les clubs, il y a des discothèques qui vont se créer aussi. On va ouvrir de nouvelles discothèques pour le disco, ouais. Déjà aux États-Unis, en Europe. Mais il va y avoir une nouvelle profession, le DJ. Vous l'avez dit, le DJ, au départ, dans les années 60, on appelait ça un disquaire. Mmh. Parce qu'il passait des disques sans forcément les enchaîner. Mais le DJ, dans la boîte, c'est le maître de cérémonie. C'est celui qui va créer l'ambiance. Son rôle aussi, c'est donc de mettre de l'ambiance, mais de maintenir les gens sur la piste de danse. Mmh. Donc, en alternant des choses plus rythmées, moins rythmées. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une particularité dans le disco, c'est que c'est une musique qui permet qui favorise la danse, et on n'a pas besoin d'avoir pris des cours.
C'est la grande liberté, le disco.
C'est la grande liberté, c'est la liberté des mouvements, des pas sur le dance floor, et on peut danser disco tout seul, en face d'un partenaire, d'une partenaire, mais on se laisse aller à... Il faut avoir le rythme dans la peau, c'est tout.
Alors, les États-Unis succombent donc au rythme dans la peau et le disco, avec cette rythmique en plus, dont on parle, parce que c'est un peu les rythmes du cœur aussi, donc c'est ça qui fait qu'on est particulièrement sensible au disco. Est-ce que les radios ont commencé aux États-Unis à s'emparer de ce phénomène et à le diffuser?
Oui, beaucoup.
Est-ce que c'est comme ça qu'à un moment donné, il est venu jusqu'à nous?
Bien sûr, les radios vont diffuser beaucoup, beaucoup de disco. Il y aura même des radios 100% disco. Certains vont grincer des dents, ça va.
On y reviendra.
Mais des radios 100% disco sur la côte est, sur la côte ouest. Et puis il y a un truc très très intéressant aussi, c'est que le maxi 45 tours va naître avec le disco. Il n'existait pas avant parce que il permet d'avoir des versions longues.
Oui.
Et justement les DJ, pour maintenir les gens sur la piste, eh bien au début ils mixent des titres qui font 3-4 minutes, mais on va demander aux producteurs, aux musiciens d'enregistrer des versions longues de leurs chansons. Donna Summer sera l'une des premières avec Gloria Gaynor. Et voilà, parce qu'il faut que les gens dansent et qu'ils restent sur la piste.
Alors comment justement le disco a-t-il quitté les pistes des États-Unis, des discothèques des États-Unis, pour venir envahir la France? Et c'est là qu'on a vu tout à coup des artistes avec des costumes à paillettes en France, des hommes s'emparer du disco, des artistes tels que Dalida aussi, qui sont devenus de grandes icônes du disco. On en parlera dans un instant sur RTL en Jour J.
RTL, Jour J avec Flavie Flamand.
Je suis déjà essoufflée, moi. Dans les années 70, la France se réveille disco, mange disco, respire disco. Jour J vous emmène sur la piste ce soir et vous rappelle ou vous fait découvrir une décennie de joie et de légèreté. La décennie haute en couleur. On est grosso modo entre 1971 et 1981. Jean-Marie Potier, vous aussi, vous avez le rythme dans la peau, dites-moi.
Oui, c'est mon adolescence, le disco. Moi, j'ai vibré au rythme du disco dès 13, 14, 15 ans.
Bah oui, ça j'aurais bien aimé, moi. Alors j'ai connu les années 80, moi, à cet âge-là, ce qui était pas mal non plus dans un autre style musical, mais c'est vrai que les années disco, on sent qu'elles étaient particulièrement, je dirais, légères. Comment le disco a-t-il envahi l'Hexagone? Notre jour J, on l'a compris, c'est le 22 septembre 1971, sortie du film Shaft en France, donc c'est ainsi que le disco débarque. Néanmoins, après, est-ce que les artistes français de l'époque se disent tout de suite, tiens, il y a un truc de dingue là, il y a un trésor, on va essayer d'en faire quelque chose?
Oui, en France, on peut situer aux années 74 les balbutiements, mais surtout 75.
Ouais.
En 75, les producteurs français qui ont une oreille de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi de l'autre côté de la Manche en Angleterre, eh bien, ils se disent, nous aussi, on va faire du disco. L'un des premiers, alors on peut parler d'Orlando, le frère de Dalida, il lui fait enregistrer J'attendrai.
Attends, ça c'est la version originale ?
Non.
Alors, c'est ça, c'est un remix, enfin un remix de l'époque, hein, mais c'est la version
voilà, de disco. Rina Ketty de 1938.
D'accord.
Et créée en 1938 par cette chanteuse Rina Ketty, ça a fait grincer beaucoup de dents, la version.
Pourquoi
de
qu'est-ce
Dalida.
Qu'on s'est dit alors ?
Parce que c'est une chanson qui parle de soldats, de guerre.
Et tout ça en robe à paillettes, quoi.
Et Dalida danse dessus, elle en fait un truc hyper festif. Donc les puristes n'étaient pas contents.
Je comprends. Alors Orlando, il avait le flair, hein, évidemment,
oui.
Il avait le nez creux. Dalida, on l'a entendu, devient l'une des icônes du disco. Et puis il y a Sheila aussi, hein, qui va s'emparer de cette mode avec Spacer, qu'on entend tout de suite. Spacer, elle chante en anglais. Pourquoi il fallait chanter anglais pour faire du disco ?
Pour s'exporter.
Ah, okay.
Et oui, c'était un truc aussi, c'est que pour chanter, s'exporter dans tous les pays d'Europe et peut-être au-delà, il fallait chanter en anglais. Et donc, dès 77, son producteur Claude Carrère, avec l'aide de Sheila, monte le groupe SB Devotion. D'ailleurs, sur RTL, RTL a beaucoup fait la promotion de ce disque Love Me Baby. Et au départ, Claude Carrère avait dit si on dit que c'est Sheila qui fait du disco, personne n'en voudra parce qu'elle a une image de chanteuse populaire, mais en français. Donc, les auditeurs d'RTL avaient téléphoné au standard, ils téléphonaient énormément pour dire « Mais on reconnaît, c'est Sheila, SB Devotion. » Voilà. Ça avait fait le buzz à l'époque. Et voilà. Et elle chantait en anglais, donc voilà, elle a chanté dans toute l'Europe. Et puis ensuite, Carrère signe avec Chic, le groupe Chic. Nile Rodgers lui compose avec Bernard Edwards l'album dont le titre Spacer, hein, l'album King of the World, et c'est un carton mondial.
Des hommes aussi se mettent
Patrick
à chanter.
Juvet.
Alors, Patrick Juvet. Alors, on danse tous sur cette chanson. Même les femmes se trémoussent sur cette chanson, on a l'impression que c'est un hymne à la femme. Que nenni, mesdames. Mais que nenni, c'est une chanson hyper misogyne.
Oui, à travers le prisme du disco comme ça, il fait passer un message. Enfin, c'était Jean-Michel Jarre qui avait écrit le texte.
Oui, donc Jean-Michel Jarre était un gros misogyne aussi.
Et voilà, misogyne, voilà. Bah, les femmes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles font des enfants toutes seules, elles ont des blousons noirs, elles font de la moto.
Elles sont libres, quoi.
Mais voilà, elles s'éclatent.
Non, mais je vous invite, messieurs, dames, à écouter les paroles d'Où sont les femmes, et vous verrez que quand vous vous trémoussez et que vous avez l'impression tout à coup que c'est un hymne à la joie, eh ben en réalité c'est une chanson qui aimerait remettre la femme là où elle était avant les années 70.
Oui, et les militants du MLF ont envoyé des lettres d'insultes à Patrick Juvet, à Jarre, à la maison de disques. Ça avait fait un tollé.
D'autres artistes en France ?
Oui, y a Céron qui est un français batteur comme ça, qui va avoir du mal à imposer son disque, et c'est par un petit accident entre guillemets, il fait distribuer son disque dans les magasins parisiens, et lui-même. Et un manutentionnaire se trompe et envoie à Chandisque sur les Champs-Élysées, envoie des cartons de Céron aux États-Unis. Il retourne des cartons de Céron,
c'est fou, hein,
au lieu de retourner les Barry White. Et voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, y a un DJ qui entend ça, et ça va être succès de l'autre côté aussi de l'Atlantique.
Ouais. Et Céron qui a fait toute sa carrière, pardon de le dire comme ça, c'est pas réducteur, mais sur un titre ?
Non, il y en aura plusieurs. Ah oui, il va y en avoir plusieurs. Il y a celui qu'on entend là. Et ensuite, il va y avoir Je suis Music.
Ouais.
Il va y avoir Supernature.
Ouais.
Immense titre. Mais c'est vrai que celui-là, c'est celui qu'on a peut-être le plus entendu.
On va se retrouver dans un instant parce que le disco, eh ben, il était partout, il est encore partout, et ce sera dans un instant dans la suite de Jour J.
La vie flamand sur RTL, Jour J.
C'est dommage que l'on soit à la radio parce que vous pourriez nous voir danser dans le studio d'RTL. On est ensemble jusqu'à 21h. Bienvenue dans les années 70. Le disco est à l'honneur dans Jour J. Le disco qui n'est pas circonscrit aux pistes de danse. Jean-Marie Potier, il est absolument partout. partout, le disco.
Partout, partout, parce que le disco, c'est un phénomène musical mondial et parce que c'est un bon filon pour faire de l'argent. Tout devient disco.
C'est ça qui est fou. Parce que franchement, quand on regarde, j'ai l'impression que c'est le genre musical qui aura le plus envahi tous les pans de notre existence. C'est-à-dire que le disco, on le retrouve au cinéma, dans évidemment la musique, mais dans les fringues, dans les fringues disco. Enfin, il suffit, on n'a pas parlé d'ABBA. Bon, ABBA qui en plus fait son comeback là en ce moment, mais c'est vrai que ce sont des fringues aussi,
oui.
Disco.
Oui, oui, des fringues, voilà, des petits shorts à paillettes, des hauts, des tout est scintillant, les semelles compensées. On a souvent parlé pour les hommes des cols pelle à tarte, bien sûr, les costumes, mais les costumes sont très brillants aussi, hein, très très satinés. Donc il y a la mode, il y a la publicité, les jingles publicitaires sont disco. Sur RTL, on a eu des jingles disco à l'époque. Je peux vous le dire, j'y étais, j'écoutais. Et puis le cinéma, bien sûr. On va monter des films disco autour de certains artistes comme les Village People. Il y aura Can't Stop the Music, c'est autour des Village People. Xanadu, c'est Olivia Newton-John. La Fièvre du Samedi Soir, alors là, c'est le carton mondial. Et ça donne des idées à plein de producteurs, bien sûr. Du coup, après, on aura un remake de Sgt. Pepper's. Mais alors, bide total. On a beau mettre Peter Frampton, les Bee Gees et un tas de Earth, Wind and Fire dans le film, ça ne marche pas.
Pourquoi ?
Parce que c'était du réchauffé, c'était mal fait, c'était en fait ça n'avait pas été bien préparé. Il faut quand même un scénario. Il faut quand même pas amener les chansons n'importe comment. Voilà, donc mais La Fièvre du Samedi Soir, c'est le carton mondial. La bande originale est l'une des plus vendues dans le monde après The Bodyguard.
Donc ça veut dire que le support, c'est la musique. En fait, la musique, c'est comme une clé dans plein de portes finalement, qui ouvre plein de portes différentes. Dans le milieu de l'art, on peut se dire aussi que certains artistes ont dû être inspirés des couleurs disco, parce que en fait, la décennie disco, je disais, c'est une décennie qui est haute en couleurs. On la retrouve partout, les affiches disco.
Oui, bien sûr.
C'est pas du noir et blanc.
Non, 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 non. Il y a de la couleur. Il y a de la paillette, bien sûr, sur les tenues, dans les décors, dans même l'ameublement. Il y aura des meubles disco. Et on a les couleurs orange, verte, et les affiches, c'est pareil. Il y a du rose. Enfin, c'est du rose fuchsia. Ça pète de partout. Et comme vous le disiez, oui, Andy Warhol va créer son magazine aussi, Interview.
Il allait d'ailleurs au Studio 54, qui était le temple du disco aux États-Unis.
C'était la Mecque du disco, c'était et c'était très select. Il y avait les grandes stars, Liza Minnelli, il y avait Barbara Streisand, Bianca Jagger, tous les mannequins, la mode se retrouvait au Studio 54. Mais nous, on a eu le Palace en France. À partir de mars 78, ouvre le Palace au Faubourg Montmartre, et c'est un ancien théâtre, donc c'est un décor très baroque comme ça, et ça va être le temple français du disco aussi.
Alors, le disco, c'est de la danse, c'est le cinéma, ce sont des affiches, ce sont des fringues. En fait, le disco, on l'a dit, est absolument partout. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une overdose ?
Bien sûr.
Parce que ça fait trop, c'est comme un gâteau trop sucré, trop agencé, vous voyez ?
Oui, exactement. Et justement, parce que c'était un bon filon pour faire de l'argent, il y a des gens qui vont mettre du disco à toutes les sauces et il va y avoir de mauvaises choses.
Ouais, vulgariser le disco.
Voilà. Et donc, les gens en ont marre, ils n'en peuvent plus. Il est temps de passer à autre chose. Alors le son va évoluer. Il va évoluer vers la techno. Et à partir de 79, mais plus en Europe ici, ce sera plutôt 80-81. Mais en 79, eh bien, il y a la fameuse Disco Demolition Night.
Alors racontez-nous, c'est aux États-Unis. Qui était-il ?
Steve Dahl était un animateur d'une radio qui faisait une programmation 100% disco. Ouais. Mais lui, il détestait le disco.
Il voulait pas facile, hein.
Il voulait du rock. Voilà, il ne jurait que par le rock. Donc, il démissionne de cette radio. Il est engagé par une autre radio concurrente. Et il prépare en douce son mouvement anti-disco. Un jour, au micro, il va dire « Venez à la mi-temps du match de baseball dans le Comiskey Park, c'était à Chicago, c'était au mois de juillet, et venez ce jour-là, amenez tous vos vinyles, on va les faire exploser, on va les faire péter. » Et c'est ce qu'il va faire. À la mi-temps, il y a une benne, tout le monde est venu avec ses disques.
Donc symboliquement, on a tué le disco.
On a tué le disco. Absolument. Aux États-Unis, en 79, en juillet 79, c'est parti de comme ça. Et en Europe, non, ça va continuer parce qu'on en est, on n'est pas aussi violent. Mmh. Et puis ça continue à marcher. Donc, mais petit à petit. À partir de 80, 81, eh bien le son va évoluer. Alors tout ce qui était populaire dans les années 70, on va le rejeter en masse.
Oui, classique, hein. Classique, la mode qui passe.
Classique. Ben le disco va devenir techno, va devenir house, va devenir new wave, va devenir électro. Il ne va pas vraiment mourir. Mm. On va le voir après parce que le disco, il reste là. On lui donne d'autres noms et d'autres arrangements.
On va se retrouver dans un instant. On va prendre des nouvelles avec vous, Jean-Marie Potier, du disco aujourd'hui, car... Écoutez la radio, écoutez les artistes, Juliette Armanet notamment, regardez autour de vous, regardez les concerts de Clara Luciani et vous allez comprendre que le disco aujourd'hui, il est toujours là.
Jour J avec Flavie Flamand jusqu'à 21h sur RTL.
Là on entend Daft Punk. Avec Pharrell Williams, Jean-Marie Potier, et c'est du disco. C'était il y a quoi? Il y a combien de temps?
C'était en 2013.
Ah bah oui, donc il y a 7 ans, 8 ans.
Oui, oui, le disco était à nouveau de retour. Ouais. Oui, les Daft Punk, ben voilà, un duo électro qui a été biberonné aussi au disco, hein, ouais. On peut le dire. Donc c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et puis et c'est pas étonnant aussi qu'ils aient fait un carton mondial parce que les gens ont besoin de ça. À nouveau, on a besoin de danser, de bouger, de d'avoir la banane, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces périodes de l'histoire hein, depuis ces années 70 qui n'ont pas été forcément simples. Hein. Le disco est mort aussi quelque part avec l'arrivée du SIDA qui a eu raison de la fête et de la nuit.
Bien sûr.
Et puis c'est ce qu'on disait aussi, il s'est finalement glissé au fur et à mesure du temps, dans des chansons, dans des accords d'artistes qu'on n'imaginerait pas forcément disco, parce que le disco a changé, vous nous le disiez, c'est devenu un autre genre musical. C'est comme si le disco avait muté finalement.
Oui, muté, et il a coloré d'autres compositions, il a pris une nouvelle couleur, bien sûr, et moi je dis souvent, là on le voit depuis le confinement, il a rallumé la lumière.
Ah mais alors attendez, il y a Clara Luciani a dit que tout son premier confinement, elle écoutait justement de la musique disco. Elle a sorti un album qui s'appelle Cœur, que je vous conseille, mais vivement, parce qu'il est sublime son album. Oui. Et on va l'entendre, il y a aussi du disco dans l'album de Clara.
Totalement, elle assume, elle revendique le disco.
Et sur scène.
Et sur scène.
Et sur scène, on est en période disco.
À l'Olympia, elle a toute une scénographie 70s.
Cette chanson, c'est Respire encore de Clara Luciani. Clara, elle est jeune, hein, elle n'a pas 30 ans. Donc, ça veut dire qu'elle a reçu la disco en héritage.
Oui. Elle dit que, justement, comme vous disiez, pendant le confinement, elle composait son album. Et le matin, elle mettait du disco, elle mettait à bas pour se mettre en forme, pour se donner de l'énergie. Il y a de l'énergie dans le disco. On l'entend dans la batterie, dans la basse. Ça vrombit. C'est ça aussi le secret de cette musique, pourquoi c'est aussi populaire. Et il y a plein d'artistes, on le voit avec Juliette Armanet, qui a sorti son album, et il y a plusieurs titres disco dedans.
Voilà, et notamment le dernier jour du disco. Qu'est-ce que ça dit de notre société d'aujourd'hui, selon vous, Jean-Marie Potier? Ces musiques-là, est-ce qu'on n'est pas dans une période, justement, suite à ce que l'on a vécu, les différents confinements, ce monde de repli, de pas pouvoir être ensemble, est-ce que le disco, c'est pas quelque part la musique de la résistance?
Si, bien sûr, à nouveau, ouais. La résistance, revendiquer le droit à la liberté, le droit de danser, de faire la fête à nouveau, de se retrouver, de se toucher, de s'embrasser, c'est ça. ça aussi. Bien sûr, comme au début des années 70, où les minorités avaient besoin de dire « nous, on existe, on est là c'est ça, absolument. »
Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marie Potier, d'avoir
merci
accepté
de
mon invitation. Je ne sais pas si Marc Bisset n'a pas une petite musique disco, là, pour que je puisse faire la promo de vos ouvrages, parce que... Ah, j'adore. En plus, je trouve que ça donne un rythme, c'est-à-dire que... T'as envie de chanter. Donc, je rappelle que vos ouvrages « Un adolescent des années 70, ma vie avec Abba » est aux éditions Ola et que le dico du disco est à la renaissance du livre. J'ai l'impression qu'on est en boîte. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'Hippocampe à Barneville-Carteret. Ça s'appelait donc l'Hippocampe. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais je vous y invite ce soir. Merci beaucoup, Jean-Marie Potier.
Merci, DJ Flavie.
À bientôt sur Air to Air.